Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo, on est ravis d'être avec vous. Bonjour Fabrice Coustet.
Bonjour Bernice, bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Eh bien ça va très bien.
Nous sommes le vendredi 27 octobre, et oui ça passe vite, déjà un mois qui se termine, oh là là. Bon, comme chaque semaine, on est parti pour une heure et demie ensemble. Pendant 45 minutes, on va faire le tour de l'actualité immobilière. Ça vous intéresse si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire, si vous avez envie de le devenir, si vous vous intéressez au crédit. Voilà, on parle d'immobilier en long, en large, en travers. On aborde tous les sujets, Fabrice.
Exactement. On va parler justement du marché immobilier dans différentes villes européennes. Et puis, on reviendra sur les entretiens cadres de ville qui ont eu lieu, c'était il y a un peu plus d'une dizaine de jours, avec des sujets justement sur la révolution dans la ville, comment on voit ces révolutions, comment on surélève aussi la ville, comment on bâtit. La ville sur la ville, on verra ça dans un instant.
Et oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la ville de demain. Et puis on découvrira évidemment une nouvelle start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Et il y aura l'instant Greenlock. Et en seconde partie d'émission, on recevra Ludovic Delès avec Grégoire Daricot, hein, qui est journaliste également à Radio IMO. Donc Ludovic Delès, c'est le directeur général de Colliers France et c'est notre invité cette semaine. C'est parti pour le Mac de l'Immo.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
On va s'intéresser au marché immobilier, Bérénice, dans les différentes villes européennes.
Eh bien oui, depuis que la BCE, la Banque Centrale Européenne, a adopté en juillet 2022 une nouvelle politique monétaire en relevant ses taux directeurs, le marché immobilier est impacté. D'après une nouvelle enquête Meilleurs agents, le taux d'intérêt reste en hausse dans l'ensemble des pays européens étudiés, mais on voit qu'une stabilisation semble s'opérer, bonne nouvelle, sauf pour la France, qui enregistre la plus forte augmentation des taux, plus 1,3 points sur un an.
Et ça impacte bien sûr le pouvoir d'achat immobilier européen, qui n'est pas le même en fonction des pays.
Et oui, alors en bas de l'échelle, on retrouve Lisbonne, où le pouvoir d'achat est le plus restreint. Alors pour vous donner un exemple, un couple de Portugais sans enfants et qui perçoit le revenu national médian ne pourra accéder qu'à 13 mètres carrés. Paris se situe juste au-dessus, avec un prix du mètre carré qui fait partie des plus élevés des capitales européennes, mais le revenu national médian étant plus élevé qu'au Portugal, un couple qui souhaite devenir propriétaire pourra prétendre à 17 mètres carrés en moyenne, donc 4 mètres carrés de plus qu'au Portugal.
Ouais, 17 mètres carrés pour un couple, c'est pas cool.
Ouais, c'est compliqué, hein. Faut bien s'entendre, on va dire. Pour plus d'espace, il faut prendre la direction de Rome, où un couple d'Italiens au revenu moyen pourra se payer 42 mètres carrés.
Bah, c'est pas mal. Et en tête de liste, alors quelle ville est la plus privilégiée?
Si je vous dis une frite une fois.
Ah, on part vers le nord. Là.
Bruxelles, c'est la capitale où le pouvoir d'achat est le plus important. En effet, avec un revenu moyen, un couple de Belges sans enfants pourra s'offrir un 62 mètres carrés.
Au niveau de l'évolution des prix, comment ça se passe?
Eh bien, on constate également des disparités, hein, comme pour le pouvoir d'achat immobilier. Berlin, en Allemagne, affiche des prix immobiliers en baisse de moins 3% sur une année, alors qu'au contraire, les capitales du Sud montrent une plus forte augmentation des prix, une hausse des prix même. Lisbonne affiche plus 7,3% et Madrid plus 3,2% en un an. C'est marrant, c'est un peu comme en France. Le sud, ça continue d'augmenter alors que le nord, ça baisse.
Et voilà pour le marché immobilier dans les différentes villes européennes.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Stéphane Scarella, bonjour, directeur de Rent. Je vous donne rendez-vous avec toute l'équipe les 8 et 9 novembre prochains à Paris, Porte de Versailles, pavillon 6 pour les 10 ans de Rent. 400 exposants, 110 startups, 15 000 professionnels de tous les marchés immobiliers sont attendus. On va y parler innovation, inspiration, internationale. Ne ratez pas ce rendez-vous de l'industrie immobilière. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos passes sur le site internet paris.rent.imo. Rendez-vous les 8 et 9 novembre. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
Le Mac de l'Immo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
On se retrouve dans le Mac de l'Immo, comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h30. Tout à l'heure, notre invité sera Ludovic Delesse, le directeur général de Colliers France. Mais tout de suite, on parle fabrique de la ville. À quelle révolution sommes-nous confrontés? On parle beaucoup de la ville de demain, des nouvelles réglementations, de ce qui se passe. Voilà, il y a une évolution. Fabrice, lors des entretiens de cadre de ville, vous avez interviewé Gilles Bouvelot, le directeur général de l'EPF Île-de-France, qui s'est interrogé sur la valeur foncière verte aujourd'hui peu prise en compte et sans doute demain à repenser.
On a le plaisir de conclure avec Gilles Bouvelot. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'EPF Île-de-France et vous avez eu la lourde tâche donc de terminer par une keynote. À quelle révolution sommes-nous confrontés? Vaste sujet hein, pour clôturer ces entretiens cadre de ville.
Oui, voilà, exactement. Alors, pendant quand même toute la journée, toutes les interventions et toutes les keynotes qui ont largement avancé le sujet, puisque sur plusieurs fronts, en fait, il y a des évolutions assez majeures. Alors, portées par la crise immobilière, portées par le besoin de transition écologique, portées par les événements, etc., qui conduisent quand même à envisager, sinon une révolution, du moins des évolutions très fortes dans notre manière de travailler tous et de concevoir et de fabriquer la ville.
Ouais, alors cette ville de demain, justement, elle ressemble à quoi? Vous avez cité effectivement quelques évolutions, révolutions, avec, c'est vrai, des paradoxes, parce qu'on a cette équation économique qui est compliquée, l'État n'a plus d'argent, les Français comptent, et puis on a ce besoin aussi de transition énergétique, écologique, qui est inflationniste.
Alors, ce qui complique les choses, c'est qu'on est en pleine crise immobilière, hein, très clairement. Alors, on sait qu'elle est conjoncturelle, hein, c'est cyclique, mais elle est très lourde. Donc, elle mobilise déjà tous les acteurs sur les moyens d'en sortir, y compris les acteurs du foncier, comme nous, puisqu'on a un rôle tout à fait contracyclique. Mais derrière ça, le véritable enjeu, c'est effectivement la transition écologique, sur laquelle il convient de ne pas baisser les bras. Même pour ces raisons, et un sujet qui est tout à fait massif et qui est pour moi révolutionnaire effectivement au sens propre du terme, c'est l'instauration du droit à la nature en ville.
Le droit à la nature en ville, effectivement. Alors on a déjà le ZAN hein, qui stoppe un petit peu la bétonisation à tout craint, mais maintenant il faut même aller encore plus loin, c'est-à-dire il faut remettre la nature en ville parce qu'on sait que cette ville, sinon elle va devenir rapidement invivable.
Voilà, pour trois raisons. D'abord, effectivement, les îlots de fraîcheur, on l'a vu lors des dernières canicules. Deuxièmement, c'est un besoin humain, sanitaire, les espaces verts, etc. Et puis troisièmement, le support de la biodiversité, qui est aussi un enjeu, y compris en ville. Donc je pense que le droit à la nature, pour moi, il va bientôt avoir, il l'a déjà dans les faits, mais une valeur quasi constitutionnelle, un peu comme le droit au logement, qui a cette valeur depuis les années 1990 et les lois sur le logement. Alors après, le vrai sujet, c'est qu'il va falloir arriver à confronter tous ces droits pour fabriquer la ville. Parce que le droit à la ville, c'est le droit à la nature, au logement, sans opposer l'un à l'autre et en les combinant. Et ça nécessite pas mal de travail de tout le monde, des professionnels, des politiques, des pouvoirs publics et des habitants eux-mêmes.
C'est vrai, d'ailleurs on a vu que les meilleurs projets ou ceux qui avançaient le plus vite, ça se fait souvent avec de la concertation, avec de la pédagogie, avec de la co-construction. On ne peut pas aujourd'hui, n'importe quel aménageur, arriver et dire voilà, tel projet, signé en bas, d'ailleurs personne ne signe.
Oui, absolument, oui, on le voit. Donc si on veut éviter la multiplication des recours, comme aujourd'hui, il faut clairement renouveler les méthodes. Alors c'est déjà le cas. Après je pense qu'il faut quand même poser le sujet, c'est que on a toujours besoin de logements. On a besoin d'espaces verts et chacun doit faire l'effort de comprendre que lui, il est peut-être logé, mais ses enfants devront être logés dans quelques temps et ce ne sera pas forcément aussi facile pour eux que pour lui. Donc la contradiction elle est en chacun de nous. Il faut aussi que chacun de nous la résolve, parce que le rôle du politique derrière, c'est évidemment de la résoudre dans les décisions stratégiques qu'il aura à prendre et des professionnels dans leur mise en œuvre. Mais très clairement, je crois qu'un des vrais enjeux, c'est quand même de poser la question. C'est ça qui serait déjà, de poser le sujet, qui serait déjà révolutionnaire. Et d'ailleurs, nous, on se pose la question. Aujourd'hui, on fonctionne, depuis des années, sur le modèle de la charge foncière. La charge foncière, c'est le droit à construire, ça a une valeur pour faire du logement, etc. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le modèle de la charge foncière, notamment pour arriver à donner à valoriser cette externalité positive qui est la nature en ville, pas simplement la nature d'ailleurs, les bénéfices collectifs de santé, environnementaux, de bien-être, etc., qui pour l'instant ne sont pris en charge financièrement par personne mais qui existe.
Ça veut dire que ce sera un changement de paradigme dans la manière d'appréhender le coût foncier, la valeur de la ville.
La valeur de la ville, alors il y a des travaux, hein. Comment combiner le bilan économique, parce que de toute façon il y a quand même toujours une économie derrière ça, hein, des investisseurs, et le bilan écologique au sens large et environnemental d'une même opération. Et comment fusionner les deux, faire pas qu'ils soient en opposition l'un à l'autre.
L'EPF Île-de-France est en pointe sur ces sujets ?
Oui, on essaye. Alors on essaye de. On a un laboratoire interne, hein, sur la base de collaborateurs, fondé d'ailleurs sur nos opérations, donc sur du réel. Et on travaille sur un concept qu'on appelle la charge foncière verte. Alors, qui paraît paradoxal, parce qu'effectivement, la partie verte aujourd'hui ne paye pas de charge foncière. Donc, comment arriver à intégrer, par ce concept, cette notion de valeur de la nature, enfin, ou de valeur environnementale et sociale de certains terrains, de certaines opérations, dans le modèle économique de la ville.
Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
Seems I know less and less. I don't know anything. I'll be the first to admit it. Some people know everything, and they'll tell you so at the drop of a dime. They're always right, never a doubt in their mind. I think it's impressive. I wish I could live like that. Never been so sure about a thing in my life. Any confidence I have is a fleeting point in time. I'll never know anything, 'cause I just like to spend my days taking up space, watching the world burn from somewhere safe. I'll never change a thing as long as I live, if I don't know a thing. I'll never know anything.
Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
Le Mac de Limo, on continue avec la fête peut-être des petits et des grands. Ça sera mardi prochain, 31 octobre. C'est Halloween, Bérénice.
Oui, vous allez aller chercher des bonbons?
Mais bien sûr.
Bah, on y va ensemble.
Pourquoi pas? Si vous êtes déguisé en sorcière, bien évidemment. Alors, vous êtes
toujours
un peu superstitieuse. Vous allez nous parler justement de la superstition des Français en matière d'immobilier.
Et oui, c'est une étude Se Loger, le site immobilier Se Loger, qui a fait une étude spéciale Halloween pour voir, en matière d'immobilier, si les Français sont superstitieux. Eh bien oui. Alors j'ai quelques chiffres. 15% des Français éviteraient le nombre 13 lors d'une visite immobilière. Alors, que ce soit le numéro de rue, un logement situé au numéro 13, ou par exemple au 13e étage, ou encore visiter un bien le vendredi 13. Ensuite, vous, Fabrice, imaginons que vous ayez envie d'acheter ou de louer un bien. Est-ce que vous vous renseignez sur l'histoire du bien ?
Pas forcément, si j'ai le coup de cœur, mais c'est vrai que j'aimerais pas qu'il y ait eu, par exemple, un crime horrible qui soit passé au même endroit.
Eh bien voilà, vous faites partie des 30% des Français qui se renseignent sur l'histoire du bien. Ce chiffre monte à 42% pour les moins de 35 ans. Donc ces personnes veulent acheter un bien, elles se renseignent sur les faits divers marquants qui se seraient produits dans ce bien. Ensuite, plus de 4 Français sur 10 ne seraient pas capables d'emménager dans un logement où le précédent propriétaire est mort. Ah. Oui, parce que peut-être que son esprit hante encore les lieux. Et 7 Français sur 10 ne pourraient pas vivre dans un logement où ont eu lieu des meurtres. Et ça monte jusqu'à 81% chez les femmes. C'est vrai qu'on est un peu plus sensible. Vous pourriez, par exemple, vous visitez un bien coup de cœur dans lequel il y a eu...
Ce serait peut-être un peu compliqué, j'avoue.
Ce serait un peu compliqué. Votre femme, je suis sûre qu'elle n'aimerait pas. Enfin, les derniers chiffres à retenir, 71% ne pourraient pas faire construire une maison sur un ancien cimetière. Je ne comprends pas pourquoi, c'est assez calme les cimetières. Et 66% ne seraient pas capables de vivre dans une maison hantée. Et oui, parce que les fantômes, ça existe. Et enfin, 67% déclarent pouvoir renoncer à un bien s'il y ressent des ondes négatives, des énergies négatives. Et là encore, ce chiffre augmente chez les femmes, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup plus d'intuition que vous.
Mais c'est vrai que peut-être il y a des endroits qui ont des mauvais karmas, comme on dit, et il y a même des gens qui sont là pour désenvoûter des maisons, ça existe.
Eh bien justement, ça me fait penser que 15% des Français, c'est encore dans l'étude, déclarent avoir déjà purifié un nouveau logement avec, vous savez, du sel ou de la sauge.
De la sauge, bien
oui,
sûr.
Ça marche bien la sauge.
Mais oui.
Le Mac de Limo, Thomas de Champsavin, l'instant Greenlock.
Le Mac de Limo, on continue tout de suite. Alors que vous soyez locataire ou propriétaire, si vous avez besoin de conseils, c'est pour vous. Voici l'instant Greenlock.
Je suis avec Thomas de Champsavin, cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour Bérénice.
Alors Greenlock, je rappelle que c'est une plateforme qui aide à la collecte des candidatures pour un bien qui est mis en location et qui accompagne le candidat jusqu'à la signature du bail. Aujourd'hui, nous avons une question de Estelle qui aimerait savoir comment bien préparer son état des lieux de sortie pour éviter évidemment les retenues sur son dépôt de garantie. C'est vrai que c'est mieux.
Effectivement, je peux vous donner aujourd'hui 3 conseils essentiels pour garantir une transition en douceur lorsque vous quittez votre logement. Comme cela pourrait aider notre auditrice. Conseil numéro 1, réaliser des réparations locatives. En effet, il est crucial de comprendre que les locataires ont des obligations envers leurs propriétaires. Cela inclut donc l'entretien du logement et les réparations locatives, tels que les petits travaux courants, c'est-à-dire entretenir et réparer les équipements mis à disposition comme les robinets, lavabos, éviers, prendre soin des revêtements intérieurs comme boucher les trous dans les murs avec de l'enduit, assurer la propreté générale du logement en nettoyant toute marque sur les murs ou les moquettes et les parquets. Et si vous avez un jardin, assurer l'entretien de celui-ci. Il est également recommandé de bien nettoyer, dépoussiérer le logement avant l'état des lieux pour faciliter ce processus et éviter les mauvaises surprises. En deuxième point, c'est prendre contact avec son propriétaire en cas de travaux non autorisés. Point important, normalement les locataires ne doivent pas entreprendre de travaux importants sans l'accord du propriétaire. Et si vous avez effectué des modifications comme repeindre une chambre, contactez le propriétaire suffisamment tôt avant l'état des lieux pour clarifier les choses. Car comme toute chose, la communication est essentielle. Le propriétaire peut décider de conserver ses modifications, mais il peut également vous demander de restaurer le bien à son état d'origine. En troisième conseil que nous pourrions apporter, lors de l'état des lieux de sortie, être proactif en apportant des précisions à la description de l'état du logement. Si certains éléments ont vieilli en raison d'une utilisation normale, assurez-vous de le mentionner pour que ce ne soit pas une découverte. Cela peut vous éviter des déductions injustes sur votre dépôt de garantie. En revanche, si vous avez causé des dégradations, soyez prêt à fournir des devis et des factures pour justifier les frais supportés alors par le propriétaire. En conclusion, anticiper l'état des lieux de sortie est essentiel pour éviter des problèmes le jour de votre départ. En suivant ces conseils, vous pouvez maximiser vos chances de récupérer intégralement votre dépôt de garantie. Et n'oubliez pas de noter l'état de chaque élément du logement avec précision. Cela peut être très utile en cas de litige.
Le Mac de l'Immo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
On vient d'écouter Michael Jackson, They Don't Care About Us sur Radio Imo.
Le Mac de l'Immo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo et dans quelques instants, Grégoire Daricot, journaliste Radio Immo, nous rejoindra sur le plateau et nous recevrons ensemble Ludovic Delès, le directeur général de Colliers France. Comme chaque semaine, vous savez, on a un invité, on apprend à le connaître, on découvre son parcours, on découvre aussi son groupe. Pour le coup, ce sera Colliers France, mais tout de suite, on parle des entretiens cadres de ville. Fabrice, alors, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'était comme événement. Nous y étions avec Radio Immo il y a 10 jours.
Et voilà, c'était le 17 octobre 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, l'hôtel Potocki, magnifique. Et c'est vrai qu'à travers le site internet et puis ces entretiens, cette journée en fait de débats et d'ateliers, on essaye de se représenter ce que va devenir la ville avec pas mal de témoignages, de réflexions et d'exemples évidemment très pratiques.
Et justement, vous avez interviewé Hélène Delmotte, la directrice générale adjointe en charge de la solidarité de la ville de Nice et métropole de Nice Côte d'Azur, et Didier Mignery, le président d'Upfactor, qui vous ont parlé de la surélévation des bâtiments. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour la ville de demain, puisqu'on peut plus s'étendre, alors faut bien trouver une solution, faut surélever les bâtiments. Qui peut être donc une solution à la crise du logement tout en réhabilitant les bâtiments et en permettant aux copropriétaires de faire des économies.
On va parler tout de suite de la ville, sur la ville, comment densifier par la surélévation. On est ravis d'accueillir Hélène Delmotte. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la solidarité à la ville de Nice et à la métropole de Nice Côte d'Azur. Bienvenue à vous. Et vous êtes en compagnie de Didier Mignery. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous êtes président d'Upfactor. Upfactor qui fait...
Alors Upfactor, c'est une entreprise qui développe une application qui permet de détecter les potentiels de surélévation des bâtiments. On applique automatiquement les règles d'urbanisme et on identifie partout où il reste des mètres carrés à construire sur les territoires déjà construits.
Voilà. Et oui, et justement Hélène Delmotte, la ville de Nice, elle est déjà très dense. Donc une fois qu'on n'a plus de place au sol, on part vers le haut.
C'est exactement ça. Nice est une ville très très dense, sous une forte pression immobilière, avec de vrais besoins en matière de développement de l'offre de logements et de la création de logements, et une capacité à faire qui est limitée du fait du peu de disponibilité foncière. Donc le foncier aérien, la surélévation, nous a semblé être une idée intéressante à explorer. Et Didier Mignery, Upfactor, nous apporte là une méthode et ses compétences qui nous permettent de définir où sont les potentiels et ce que l'on peut faire en matière de surélévation pour la ville de Nice.
Voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail avec vous Didier pour connaître, alors peut-être pas les secrets d'Upfactor, mais en tout cas comment vous travaillez, parce que c'est pas évident à l'échelle d'une métropole, surtout de Nice, extrêmement dense, de repérer comme ça là où il y a encore du foncier en hauteur.
Alors effectivement, la méthode, c'est via cette application donc Upfactor Geoservice que l'on a développée. On collecte toutes les données de hauteur du bâtiment et on applique automatiquement quatre règles d'urbanisme qui existent dans tous les PLU de France et notamment dans celui de la métropole de Nice-Côte d'Azur. La règle de hauteur, la règle de gabarit, puis l'implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres, oui. Et l'implantation par rapport aux limites séparatives. Une fois qu'on a dit ça, on génère ainsi un gisement brut qui prend en compte finalement les hauteurs, la forme des toits de l'existant et puis tous ces mètres carrés qui sont un peu résiduels et qui pourraient être exploités dans le cadre d'une démarche de densification.
Donc si je comprends bien, beaucoup de données, c'est ça, oui. Que vous compilez et puis vous arrivez avec vos algorithmes purement à trouver, à dire sur cet immeuble.
Voilà, ensuite un filtrage, un filtrage qui est avec trois grands filtres qui ont été choisis dans le travail pour la métropole, c'est-à-dire à la fois les déperditions thermiques, identifier tous les bâtiments, oui. Énergivores.
Ensuite, passoire thermique.
Exactement. Ensuite, la question du stationnement, c'est-à-dire partout où on pourrait densifier dans le corridor des transports en commun, c'est-à-dire pour valoriser aussi l'investissement qui a été fait par la collectivité sur les transports en commun. Donc, une volonté aussi d'aligner finalement les intérêts entre ces investissements lourds et des possibilités de développement. Et enfin, le troisième filtre qui est très important, c'est le filtre patrimonial, où il y a eu un important travail qui a été mené avec l'architecte des bâtiments de France pour identifier en amont les opportunités de surélévation qui pourraient être réalisées dans le cadre d'une démarche d'intégration à un territoire vraiment de qualité, qui est le territoire notamment de la ville de Nice, avec son double classement, entre guillemets, de secteur protégé, bien évidemment, mais aussi de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, allier finalement un travail d'analyse froide, un peu de la data, puis un travail de croisement, de filtrage avec les acteurs du territoire et les services de la métropole.
Vous prenez en compte déjà le PLU existant ?
Bien sûr, on est à PLU constant, on aime bien le dire. C'est-à-dire que en application...
Il n'y a pas de modification que la mairie doit faire ou de temps en temps, il est conseillé de Hélène Delmotte ?
Alors effectivement, c'est une excellente question puisque au fil des échanges entre les différents acteurs, on a très vite pris conscience de la difficulté sur le sujet du stationnement. Il s'avère qu'on avait une modification simplifiée du PLUM qui était engagée et donc on a de suite modifié la règle pour permettre une relative exonération de l'imposition de création de places de stationnement pour tout logement construit compte tenu du corridor de transport, etc. Donc c'est un tout. À la fois l'étude effectivement est réalisée en fonction du PLU tel qu'il existe aujourd'hui, mais si elle a mis en évidence des difficultés potentielles, et on essaye de les lever en modifiant la règle, en adaptant la règle en fonction du projet, puisque ce projet est porté politiquement avec une vraie volonté d'y aller, la preuve.
Est-ce qu'on a une idée de la volumétrie ou du nombre de logements supplémentaires qu'on pourrait créer ?
Alors, après application de ces critères un peu drastiques, on a identifié tout de suite un potentiel d'un peu plus de 500 bâtiments potentiellement surélevables. On regarde ces trois grands filtres évoqués, patrimoine, stationnement et déperdition thermique, et c'est un peu plus de 7700 logements qui pourraient être créés immédiatement en application finalement en valorisation de ce foncier aérien. Et donc c'est ce qu'on va s'attacher à faire maintenant dans une phase 3 entre guillemets de mise en application.
Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
Une problématique amiante et pollution dans vos bâtiments et vos projets, Axéo Amiante vous accompagne pour trouver la solution optimale à mettre en œuvre. Parce que sécurité maximale ne rime pas forcément avec coût maximum, nous vous assistons de A à Z. De l'expertise amiante initiale au pilotage des travaux en passant par le choix des solutions à mettre en œuvre. Le diagnostic PEMD, l'économie circulaire et la gestion des déchets. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils différenciants et des chantiers tests innovants. Notre objectif, identifier pour chaque situation la solution garantissant la plus grande sécurité pour un minimum de coûts et de contraintes. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Amiante, www.acceo.eu. Contactez-nous pour simplifier votre gestion de l'amiante.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
De retour dans le Mac de l'Imo, comme chaque vendredi, nous découvrons une start-up Imo, la PropTech, grâce à Jean-Michel Royot. Aujourd'hui, c'est Benjamin Aubry, le cofondateur de Youdo, que nous recevons. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver ce matin et j'accueille Benjamin Aubry. Bonjour Benjamin, comment allez-vous ?
Bonjour Jean-Michel, très bien et vous-même ?
Bon, vous allez nous parler de votre belle start-up, Youdo.
Oui, tout à fait.
I-U-D-O.
Tout à fait.
Youdo. À bien retenir. Bon, alors on va attaquer nos quatre traditionnelles questions. Et tout d'abord, la première, c'est quoi la promesse de Youdo ?
Alors, la promesse de Youdo, c'est de faciliter l'accès et de décoder les règles d'urbanisme, notamment pour faciliter et identifier les opportunités d'optimisation foncière à l'heure du ZAN. Donc ça peut être identifier les potentiels de surélévation, d'extension, de division ou encore de construction neuve sur des reliquats fonciers.
Donc à l'heure des PLU un peu compliqués, du ZAN.
Des PLU très compliqués parfois.
Voilà, on appelle Youdo.
Tout à fait.
Bon. Écoutez, c'est très intéressant et tellement d'actualité. Pour nos auditeurs, on va vous donner une minute pour en savoir plus, avec un gentil chronomètre dans les oreilles pour vous stresser un petit peu, mais vous stressez pas, tout va bien se passer. Allez, Benjamin, on veut tout savoir. Comment ça marche, depuis quand ça existe, combien vous êtes, comment vous est venue l'idée, enfin voilà, tout ce que vous voulez nous raconter pour nous donner envie d'appeler Youdo demain matin.
Alors, Youdo, on est encore une petite équipe fondée par trois architectes en 2018. Aujourd'hui, en fait, le constat qu'on a fait, c'est qu'il y avait des millions de mètres carrés disponibles ou vacants ou peu utilisés en matière de droit à construire dans les tissus existants. Et la première barrière à l'entrée dans tout ça, ce sont les PLU qui sont extrêmement complexes d'accès, souvent avec des jargons compliqués, encore plus avec les règles d'urbanisme dans les PLUi. Donc l'objectif, ça a été de créer une application pour pouvoir permettre de décoder et d'accéder beaucoup plus rapidement à ces données. On a créé pour ça en fait un éditeur qui a permis d'encoder un certain nombre de, enfin tous les PLU. On a aujourd'hui une base de données de 3000 PLU. Et associé à une solution cartographique qui centralise un certain nombre de données en open source, les DVF, le CADAS, les géorisques, etc. Aujourd'hui, qui est ouverte à toute la France. Et par ailleurs, on construit des algorithmes aussi qui permettent en fait de jauger un petit peu le potentiel sur un terrain. Et enfin, une intelligence artificielle qui s'appelle ChatPLU, qu'on s'apprête à mettre en ligne et qui permettra aux utilisateurs de l'application de directement interroger les contenus des PDF des règlements PLU.
Donc c'est effectivement très très tentant, et tout ça en combien de temps ?
Depuis qu'on a créé l'application ?
Oui.
Alors on a créé l'application il y a réellement 2 ans, un peu moins de 2 ans, suite à une levée de fonds l'été 2021. Et en fait on a commencé l'aventure du dos, surtout en accompagnant des propriétaires dans des faisabilités sur le potentiel de leur terrain.
D'accord. Allez, on va arriver à un peu les références. Qui vous fait confiance ? Quel type de client vous avez ? Racontez-nous aujourd'hui l'application business de Yudo.
Alors l'application business aujourd'hui, elle est essentiellement adressée vers, pour la plupart des indépendants. En fait, elle est accessible en modem freemium, c'est-à-dire qu'elle peut s'adresser à tous, y compris des particuliers qui veulent s'informer rapidement sur le potentiel d'un terrain.
Donc en fait, je me connecte sur votre site,
oui,
et je peux voir si le terrain de mon papa, je peux rajouter X mètres carrés en haut, en bas, sur le côté.
Tout à fait, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est vraiment des algorithmes qu'on est en train de construire. Déjà, vous avez accès à toutes les règles d'urbanisme qui s'y appliquent. Et puis, on est en train de construire les algorithmes pour vous permettre, en fait, d'avoir identifié le potentiel. Et par ailleurs, en fait, donc ça, c'est un accès limité. Et pour avoir un accès limité, donc on a...
Illimité, donc, du coup.
Illimité, avec des abonnements mensuels.
Là, ça s'adresse plus aux professionnels.
On est plutôt aux professionnels.
Voilà, alors du coup, c'est qui les professionnels que vous accompagnez aujourd'hui ?
Alors, on a une diversité de professionnels. Ça va être des architectes. Ça va leur faciliter le travail, accélérer un petit peu l'accès aux données.
C'est des archis qui vendent aux archis.
Ce sont des archis qui vendent aux archis, parce que nous, c'était vraiment une problématique qu'on avait.
Que vous avez rencontré.
On passait 5-6 heures avant de vraiment commencer à pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. Analyser les règlements, déjà les réunir, etc. Ensuite, on a également des agents immobiliers, pour la plupart indépendants, qui peuvent appartenir à des grands réseaux, je pense à des IAD, La Forêt ou autres. Et puis, on a des marchands de biens indépendants pour également. Et puis plus récemment,
qui vont réaliser eux-mêmes la surélévation
ou déjà qui vont s'informer rapidement, au lieu de passer des heures dans le PLU, ils ont une opportunité foncière,
voilà,
ils vont pouvoir l'analyser.
Soit pour l'emprise foncière, soit
le nombre d'accès, par exemple. Ouais. Je pense à un cas, par exemple, d'un marchand de biens qui avait l'intention d'acheter un terrain. Il s'avérait que effectivement le terrain comme ça semblait tout à fait constructible, sauf que le nombre d'accès par le PLU était limité. Donc en fait, il était plus constructible. Ou alors, fallait enfin, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il imaginait. Ouais, donc ça lui a permis en quelques secondes de tout de suite identifier cette problématique.
Pas perdre de temps.
Exactement. Et puis enfin, on a également, là on commence à avoir des asset managers, je pense à au sein de banques par exemple, on a réalisé pour BPCE un petit peu l'enrichissement de données sur un patrimoine qui peut être de une à plusieurs centaines, voire milliers d'adresses.
Donc là c'est leur propre patrimoine de la banque.
Le propre patrimoine de la banque ou le patrimoine de leurs clients.
D'accord.
Et puis enfin, on a également un autre pôle qui est un peu le pôle d'origine de Yudo avant qu'on ait lancé l'application, qui est là plutôt du conseil et de l'étude. Donc on accompagne des porteurs de projets potentiels en études de faisabilité qu'on appelle 360, qui permettent en fait d'aller beaucoup plus loin. Un petit peu, là on fait de la 3D, on fait des plans de principe, on fait également des bilans, des chiffrages prévisionnels pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est possible de faire et avoir un peu toutes les cartes en main pour prendre des bonnes décisions, des décisions éclairées. Et puis on a également un pôle là plutôt prospectif où on travaille sur les sujets de densification douce, notamment auprès du ministère du Logement. On a récemment rendu une étude sur la question un peu des porteurs de projets à densification douce et toutes les freins auxquels ils ont été confrontés, que ce soit des freins fiscaux, administratifs, réglementaires, ou encore Grand Paris Ménagement récemment sur les sujets de densification douce également, sur notamment les quartiers pavillonnaires autour des gares du Grand Paris.
Super, des belles références, bravo. Bravo Benjamin. Écoutez, on était absolument ravis de découvrir ce matin Yudo. Hein, et on vous souhaite, au nom de Radio Immo, beaucoup de succès. Pour vous contacter, comment on fait ?
Alors, vous pouvez vous rendre sur la plateforme, sur le site internet yudo@yudo.co. C'est donc, on a un formulaire de contact, ou me contacter directement, benjamin.aubry@yudo.co.
Parfait. Merci Benjamin.
Merci
à très
vous
bientôt
pour l'invitation.
Et beaucoup de succès dans vos entreprises.
Merci beaucoup.
Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Avec le soleil, sans bruit, sans angoisse, la journée se passe. Repas et poussière, y a toujours à faire. Repas solitaire, en point de repère. La maison si nette, qu'elle en est suspecte. Comme tous ces endroits où l'on ne vit pas, les êtres ont cédé, perdu la bagarre. Les choses ont gagné, c'est leur territoire. Le temps qui nous casse ne la change pas. Les vivants se fanent, mais les ombres pas. Tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. D'hiver en automne, ni fièvre, ni froid. Elle met du vieux pain sur son balcon pour attirer. Ça fait bien loin que personne la touche. Des mois, des années, sans personne à aimer. Jour après jour, l'oubli de l'amour. Ses rêves et désirs, si sage et possible. Sans cri, sans délire, sans inadmissible. Sur 10 ou 20 pages de photos banales. Bilan sans mystère, d'années sans lumière.
Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.